La question est posée par l'un d'entre vous à un moment donné dans le film, et puis j'ai l'impression que la réponse ne vient pas. Qu'est-ce que vous entendez par réussite de tous les enfants? Qu'est-ce que c'est pour vous que cet objectif de réussite? Où le situez-vous? À quel niveau? Quand considérez-vous qu'un enfant a réussi ou est en réussite?
Donc, question redoutable.
Ça peut être aussi, tu peux répondre directement, Benoît, mais ça peut être des réactions immédiates.
Bien sûr.
Et moi, je peux quand même dire un mot. On a une expression à TD Carmont qu'on emploie souvent. Ce qu'on veut, c'est une société riche de tout son monde. Ça veut dire que toute personne arrive à être reconnue par les autres, à être utile aux autres. Les gens du Carmont nous disent souvent ça. Tu sais, nous, ce qui est insupportable, c'est d'être vu par les autres comme un bon à rien. Donc les gens très pauvres, ce qu'ils demandent, c'est pas à être des polytechniciens, c'est pas à être aidé, c'est à être utile, être reconnu comme quelqu'un qui apporte quelque chose aux autres. Et dans ce projet, on a fait, j'ai parlé tout à l'heure de la confiance en soi, on a fait un très gros boulot là-dessus. C'est pas dit dans le film, c'est pour ça que je complète, mais par exemple, les rencontres de parents, il y en a eu 40 sur les 4 années, on les a toutes enregistrées et transcrites. Et toutes les réunions parents-enseignants ont été préparées. Et les parents se sont rendus compte que ce qu'ils apportaient dans le groupe de parents, ça faisait, c'était entendu par des enseignants. Certains nous ont fait remarquer, tiens, t'as mis ça dans le papier pour préparer la rencontre parents-enseignants, c'est moi qui ai dit ça. Et ça, c'était important que des parents se rendaient compte qu'ils avaient, tout à l'heure ou hier, Glassman parlait d'empowerment. Qu'est-ce qu'on fait pour que des parents aient conscience que l'école peut les entendre et que s'ils apportent quelque chose à l'école, eux-mêmes puissent s'apercevoir qu'ils contribuent à la réussite de leur enfant en venant à l'école et en apportant leurs idées. Et ça, c'est aussi important. C'est au-delà de la définition de la réussite, c'est que chacun contribue à faire avancer les choses et que l'expérience de vie de chaque personne peut être utile aux autres.
Pour répondre directement à la question, vous allez avoir un document qu'on va vous distribuer. C'est un extrait du rapport d'évaluation. Et le rapport d'évaluation est en ligne pour ceux qui s'intéressent au projet et qui ont le temps de lire 50 pages, ils pourront le lire. Mais on vous donne quelques extraits. Et notamment la production commune que l'on voit, puisqu'il y a cette dernière réunion parents-enseignants, et un des sujets, c'était la réussite. Et vous verrez ce que disent ensemble, donc il y a consensus sur ce que disent parents, enseignants et enfants. Ça a été redit, on a fait un travail d'expression des enfants sur cette question de la réussite. Alors évidemment, ça a été fait en moyenne section de maternelle, on n'a pas employé le mot réussir, mais qu'est-ce qu'ils venaient chercher à l'école, qu'est-ce qui leur faisait plaisir à l'école. Par contre, il y a des CM2 qui ont écrit des choses terribles sur la réussite, sur il faut que je gagne de l'argent pour qu'il y ait de l'argent ce soir pour acheter à manger, quoi. Je veux dire que donc la réussite, on a cette diversité d'expression de parents, d'enseignants et d'enfants, quoi. Et ça, c'est tout à fait fondamental. L'autre mot qui était important pour nous, c'est tous les enfants peuvent réussir. Alors, encore une fois, c'est pas magique, hein, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est évident qu'il suffit pas d'associer les parents pour que tous les enfants réussissent. Mais le mot tout était important pour nous, c'est juste un mot. Donc effectivement, c'était tous les parents. Et vous avez vu dans l'expression là, on voit bien qu'il y a des expressions qui sont de familles du Carmonde et d'autres, c'est des parents d'élèves de ce quartier.
Sur la réussite scolaire, dans le second degré, nous avons des attentes aussi, des attendus de la société, monter le niveau de qualification de nos élèves, permettre de ne pas sortir avec un niveau 5 ou rien du tout. Donc il y a cette attente, et au niveau des élèves, on leur a demandé ce que c'était que réussir. Quand ils arrivent, je sais pas, j'en parlerai, mais... réussir, c'était avoir le diplôme et trouver un travail. On a fait le questionnaire, on n'était pas dans l'épanouissement puisqu'on a quand même un grand taux de CSP défavorisé. C'était sortir avec le diplôme et avoir un boulot. Et nous, nous avons travaillé cette question au regard du socle commun, parce que quand même, il faudra, faut en parler aussi, hein. Il y a faire acquérir un certain nombre de compétences aux élèves. Voilà, il y a un engagement de l'école, enfin, je dis l'école avec un grand E, hein, vis-à-vis des familles. C'est aussi un contrat moral, hein, qu'on passe avec, avec les familles. Et je crois que ce contrat moral, il faudra qu'on réfléchisse comment on arrive à le tenir aussi, hein.
Peut-être une petite remarque ce qui apparaît quand même très clairement dans le film, c'est pas une relation duelle parents et école, hein, c'est aussi les partenaires de la réussite éducative, c'est aussi donc c'est l'idée de partenariat elle est incarnée en tout cas.
Je voulais vous demander en fait pour vous. Le dispositif que vous avez mis en place, est-ce que ça correspond aux conditions d'une évaluation participative et formative et continue ?
De qui ?
De l'ensemble des acteurs, donc je parle de co-formation, mais est-ce que vous pouvez préciser, parce que ce qui vient d'être dit un instant sur la question de la qualification et des compétences, il y a sans doute quelquefois de la confusion qui s'instaure dans la mission de l'école.
C'est sûr qu'il y a eu un cheminement, enfin je le dis dans le film, entre le point de départ et le point d'arrivée, avec la dimension collective. Hein. Je veux dire qu'il y a vraiment, pour nous, c'est fondamental dans la démarche, puisque une des difficultés, c'est pour les parents, c'est ils sont seuls face à l'école. Là, c'est de constituer un collectif. Donc il y a eu un cheminement de ce collectif de parents. Comme ça a été dit, c'était un collectif... qui évoluait au cours des moments. Il y avait des réunions où ils étaient trois ou quatre. Il y a des fois où la réunion, elle se passait, c'est dit par Marie-Michel, dans les tours, on va voir telle ou telle personne. Enfin, donc il y a eu beaucoup de parents, je sais pas, vous verrez dans le rapport, qui sont venus au moins une fois à une réunion, mais c'est pas tous les gens qui ont fait le cheminement entier. Pareil pour les enseignants. Donc c'est bien un collectif d'enseignants volontaires, mais aussi en 4 ans, il se passe beaucoup de choses dans les écoles. Et dans ces écoles-là, il s'est passé beaucoup de choses. Donc des parents qui sont entrés, qui sont sortis, et des enseignants aussi. Mais c'est ce cheminement que l'on a voulu montrer. Donc c'est cette évaluation, et si on veut parler d'évaluation de ce cheminement ou de compétences acquises, c'est effectivement cette production collective. Alors elle est intéressante parce que c'est une production collective qui a été faite par ce groupe parents-enseignants, validée après par le comité de pilotage. Je veux dire qu'il y a aussi, quand tu parles du partenariat, moi j'insiste beaucoup là-dessus, hein, c'est vrai que c'est un groupe de parents, c'est un groupe d'enseignants dans une école, mais c'est aussi 6 partenaires avec des rôles un peu spécifiques pour 3 partenaires essentiels que sont la ville avec la réussite éducative, l'école bien évidemment et puis ATD Quart-Monde.
Par rapport à la réussite, moi je voudrais dire qu'il y a une difficulté sur le terrain, parce qu'il y a une réussite qui est calibrée, qui est forcément institutionnellement attendue et qui est calibrée avec des diplômes et des passages et des choses comme ça. Et sur le terrain, je pense que, et surtout peut-être dans les petites classes, mais je pense que dans les grandes classes ensuite, il y a des choses qui sont induites. On se retrouve donc, enfin pour moi, la réussite pour un élève, c'est que justement il continue ou qu'il commence, parce que parfois très tôt, ils ont déjà une estime de très très négative et ils ont déjà ce sentiment ou cette croyance qu'ils ne peuvent pas agir sur leur progrès. Donc pour moi, la réussite, c'est de raccrocher l'élève ou de l'aider à construire cette idée qu'il a un pouvoir sur son parcours, sur ses apprentissages, ce qui est une des pierres angulaires de l'estime de soi, hein, c'est d'avoir cette croyance-là, en fait. Et je pense que réussir, c'est ça. Et je trouve qu'effectivement, à l'école, on est parfois trop sur le pôle de la réussite institutionnelle qui est très calibrée. Et que, par exemple, un élève de CM2 qui lit difficilement, il sera jamais en réussite, alors qu'en fait, il a quand même appris à lire, par exemple, et que quand on le retrouve, quand on suit des élèves sur plusieurs années dans une même école, on s'aperçoit qu'il y a des élèves qui sont en réel progrès, en réussite, et qui n'ont pas lâché, qui n'ont pas décroché. Et ça ne leur est que très rarement signifié, en fait, leur progrès. Parce qu'ils sont toujours comparés aux autres, ils sont toujours mesurés à l'aune de l'étalon institutionnel et du calibrage qui est nécessaire, mais qui n'est pas forcément... à mon avis, qui est trop utilisé justement dans l'école, et qu'on à des moments, effectivement, il y a forcément des couperets, il y a des passages ou pas, il y a des diplômes qui sanctionnent, mais Je pense que pendant un certain temps et beaucoup plus longtemps que ce qu'on fait à l'école, on pourrait plutôt travailler sur la réussite individuelle et à l'échelle de l'élève et de son rapport au savoir, quoi.
Oui, je voulais savoir, vous avez parlé effectivement du mouvement des enseignants dans ces quartiers et effectivement, il y a beaucoup de mouvements des enseignants, mais il y a aussi beaucoup de mouvements des parents dans ces quartiers. Est-ce que vous avez réussi à installer quelque chose de durable au-delà de ces mouvements aujourd'hui, ou est-ce que c'est très dépendant des personnes qui sont présentes dans le quartier, en fait?
Bon, on a essayé de faire une continuité, hein, quand même, et le projet est arrêté, mais le David Chan qu'on voit, il est toujours à son poste d'animateur famille-éducation et des espaces parents. À TD Carmon, on a trouvé une manière aussi d'apporter une continuité en demandant à des permanents d'habiter. Il y a deux volontaires d'ATD Carmon qui habitent le quartier, qui ont leurs enfants à l'école Tréguin, à l'école la plus difficile, et qui donc agissent par la présence. C'est une façon aussi d'être d'ATD Carmon. Ça veut dire qu'ils ne développent pas d'action, le projet est arrêté, mais ils sont là en tant que parents et ils soutiennent d'autres parents pour qu'ils continuent à participer à l'école, etc. Donc là, il y a aussi une façon de permettre une continuité. Puis les autres acteurs, Yannick Merlin est toujours là. On fait une continuité aussi. Tout à l'heure, on parlera de l'outil de formation. Pour nous, c'est aussi une manière de faire une continuité, que ce qu'on a fait là, ça serve à d'autres quartiers. Ça donne confiance à des parents ailleurs, ça donne confiance à des enseignants ailleurs d'investir, d'aller au portail, d'apprivoiser des parents. Rien que c'est des petits gestes, c'est pas des trucs très compliqués forcément qu'il faut améliorer les choses, mais c'est important.
J'ajoute deux choses qui sont apparues dans le projet, importantes pour ce que tu dis là. C'est l'espèce d'idée de parents relais qui sont pas institués, ils peuvent être délégués, certains sont délégués et c'est bien, mais qui jouent ce rôle dans le quartier d'aller au contact de ces parents qui rentrent, qui sortent dans les habitations là. Donc ça c'est pour nous fondamental. Et le deuxième outil pour qu'il y ait la pérennité, c'est cet espace parent que l'on voit plusieurs fois. Et je pense que l'idée d'espace parent, mais pas juste avoir un local, d'espace parent animé, c'est ce que fait le travail que fait David Chan. C'est ces deux outils qui me semblent tout à fait fondamentaux, au-delà de ce que dit Bruno, bien sûr, sur la formation des enseignants pour avoir ce contact. Et ça, c'est des petites choses, mais qui sont tout à fait importantes.
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de conflit de loyauté par rapport à ces enfants qui sont un peu écartelés entre deux pôles. Et moi, je me demande si les enseignants n'ont pas aussi à gérer ce conflit de loyauté entre ce qu'ils vivent, surtout les enseignants qui ont vécu cette expérience, et la demande institutionnelle, entre autres de validation des acquis que l'école doit proposer aux élèves.
Non, là, franchement, là, je vois pas de conflit de loyauté là pour les enseignants. Je veux dire que, du moins, je parle de ceux avec qui on a travaillé. C'était leur boulot. Enfin, je veux dire que nous, on a surtout pas voulu avoir un projet extraordinaire. Je veux dire qu'ils font ce qu'on leur demande de faire. D'ailleurs, moi, je trouve ça très important que l'inspectrice redit des choses très simplement. Ça fait partie du travail de l'enseignant. Donc, non, ils l'ont jamais vécu comme ça. Hein, je veux dire que, et surtout pas d'opposer les apprentissages qu'il faut faire réaliser dans la classe, que ce soit en petite section de maternelle ou dans une classe, comment elle s'appelle, étape, c'est ça, hein, d'accueil, classe passerelle. Ce n'est jamais venu dans nos débats. Non, c'était la prolongation ou d'accentuer une des compétences, un des travaux que les enseignants ont à faire.
Le film, en termes d'outils de formation, m'a particulièrement dérangé. Parce que dans vos...
C'est pas un outil de formation.
Ah, d'accord.
C'est tout à l'heure, l'outil de formation, d'accord. On va le voir après.
C'est un film d'information.
De présentation de ce qu'on a fait.
Voilà. Parce que si c'est un simple témoignage, somme toute, quand je me positionne comme participant à une commission du territoire de Bassin de Vichy sur les collégiens en difficulté, où, à partir d'une demande des enseignants de second degré, va être organisée une formation d'initiative locale quant aux relations des parents avec l'école, votre projet est ce qui en est présenté. On a la parole des parents. On a un partenariat, comme le disait Marie et Odile, incarné un coordonnateur du PRE, un animateur du PRE, vous-même qui avez une parole directe, en gros plan. Sauf qu'ils sont où, les enseignants? Les enseignants, on les voit, hein, donc je parle de l'objet filmique, hein, on les voit aux réunions, on vous entend en parler, les enseignants. Sauf que quand vous parliez de réduire le fossé culturel, moi, si je me place du côté formateur et que je présente cet objet, même en introduction,
faut pas le faire.
Pour faire comprendre le projet, les enseignants, ils vont le rejeter directement parce que la parole, alors elle est peut-être d'un partenariat incarné, mais sur la base de l'éducation au père, qui reparle du fait que il faut faire rentrer, travailler avec les parents? C'est un volontaire d'ATT Quart-Monde, un allié d'ATT Quart-Monde, un coordonnateur de PRE, une référence administrative hiérarchique, l'IEN, mais à aucun moment c'est l'enseignant qui me parle à moi directement, spectateur, de comment lui, il s'est saisi de ce travail. Vous, là, dans les questions, vous nous en parlez. Sauf que si on veut s'appuyer là-dessus pour justement ouvrir, moi je pense qu'on aura un effet contre-productif par rapport aux enseignants.
Vous avez complètement raison. Je veux dire que ce n'est pas un outil de formation. C'est bien pour ça qu'on va montrer. Il y a malentendu sur que on est un peu perturbé dans l'organisation de la journée. Ce n'est pas l'outil de formation. On va vous le montrer après la pause. Pour les raisons que vous venez de développer, dans l'outil de formation, ni Bruno ni moi ne parlons. Ça n'offrirait aucun intérêt pour les raisons que vous avez développées. Donc moi, je suis en complet accord avec vos remarques. Et c'est pour cette raison qu'on a construit un outil de formation où il n'y aura que la parole des parents, que la parole de parents et que la parole d'enseignants qui ont participé à ce projet. Ça, c'est un film qu'on nous a demandé pour raconter, mais c'est aussi bien pour des parents ou la ville qui veut savoir ce qu'on peut faire, telle ou telle chose. Ce n'est pas un outil de formation.
Oui, moi je voulais dire quand même que suite à ce film, j'étais restée un peu sur ma faim parce qu'après ce travail à l'école, hein, ces élèves ils vont rentrer au collège, donc je voulais savoir s'il y avait une suite entre guillemets, hein, c'est pas comme dans les séries américaines, mais il y a quand même une interrogation sur voilà, on a parlé des apprentissages et quand même de la validation et du parcours de l'élève. Moi, je dirais pas administratif. Voilà, on a quand même des obligations et des attendus, hein. Donc, comment ça va s'articuler, puisqu'il y a un collège de quartier, je présume, et une suite. Donc, ces élèves et ces familles qui ont été accompagnées vont être en attente, quand même, hein, quand elles vont arriver au collège. Voilà, donc, comment ça se passe? Est-ce qu'elles seront accompagnées par vos parents relais? Voilà, il y a plein de questions qui se posent à la suite.
En attente, on a essayé, hein. On n'a pas commencé dès le début du projet à bosser avec le collège parce qu'on voulait commencer par le début. Donc on a commencé avec les écoles, mais quand des parents participant au projet ont eu leurs enfants qui sont passés au collège, on a essayé d'enclencher la suite avec le collège. Et on s'est aperçu que c'est pas facile, que les parents se sentent aussi à l'aise pour aller au collège que d'aller à l'école, c'est pas du tout évident. Les enfants deviennent plus grands, il y a certains parents qui ont été très impliqués à l'école, quand leurs enfants sont entrés au collège, même la distance des enfants et de leurs parents a changé. Et en plus, on a eu la difficulté, c'est qu'au collège, le collège nous les a laissés trop prendre l'initiative, quoi. C'est plus nous qui invitions les parents au collège et pas le collège qui invitait les parents. Et là, on a eu vraiment beaucoup de mal à faire aller. On a réussi à faire des réunions dans le quartier au sujet du collège, où ça a bien marché. Il y a des parents du collège militants FCPE qui ont vraiment accroché. Mais ils venaient d'un quartier complètement différent du quartier de Maurepas. Ils n'habitaient pas à Maurepas. Tous les militants d'associations de parents d'élèves, comme par hasard, venaient d'un quartier plus aisé à côté. Ils n'étaient pas du tout. Ils n'avaient jamais mis les pieds à Maurepas alors que leurs enfants allaient au même collège que les enfants de Maurepas. Et donc, on s'est affronté quand même à des fossés. Et comme on a commencé seulement au bout de 2 ans, on n'a pas réussi à enclencher vraiment un processus, et c'est pour ça qu'on parle plus du boulot fait au niveau de l'école que dessus au niveau du collège. Mais la grosse question qu'on a eue, et dans la table ronde qu'on voit, le principal du collège était là, il nous a posé des questions, etc. Moi, je pense qu'il y a tout un travail à faire du côté de l'institution. Comment faire pour que des parents se sentent vraiment invités à venir au collège? Et c'est pas évident. Leur enfant est un ado. Si c'est simplement être dans un suivi de son enfant, il y a un malaise. Les parents aussi ont l'impression que le collège veut les éduquer. Et nous, c'est pas du tout ça qu'on veut. Vous avez bien vu qu'on n'était pas dans une démarche d'éducation par les enseignants, des parents. C'était autre chose. C'était un travail par pair et une rencontre d'un dialogue à égalité. Et on n'a pas réussi à faire ça avec le collège, qui était aussi un collège où c'était difficile, avec une forte dégradation de la mixité. Le collège, on a voulu bosser avec eux. Il y a une SECPA dans le collège. Jamais les gens de la SECPA ont été invités aux réunions. Donc ça aussi, c'est une question. Pourquoi il y avait une coupure comme ça et pourquoi le principal a réussi à faire venir quelques enseignants? Il y a eu un des échanges quand même. On a réussi à parler un peu entre parents et enseignants sur ce que les enseignants appelaient de l'absentéisme perlé. Ils voyaient des enfants qui commençaient à décrocher. L'enfant arrive le matin, il dit à son proche, je voudrais aller à l'infirmerie. Et puis après, on ne sait pas bien où c'est qu'il est passé le gamin, etc. Chez lui, c'est pas simple non plus avec les parents. Les parents ne savent pas forcément qu'est-ce que fait le gamin s'il quitte le collège et puis qu'il y retourne pas avant un jour ou deux. C'est compliqué quand même, et on n'a pas réussi vraiment. Donc là, on n'en parle pas parce qu'on n'avait pas l'occasion de tout dire. Mais il reste un travail à continuer là-dessus, sûrement.
Oui, juste pour... Parce que je suis complètement d'accord. J'avais regardé déjà des bouts du film puisque vous l'avez mis sur le site d'ATD il y a déjà quelques mois. Et c'est vrai que c'est bien qu'on travaille sur un autre outil de formation. Parce que moi, je suis en attente d'un outil de formation puisque on a beaucoup travaillé avec l'ancien qui restera quand même. Hein. Je vous le conseille, les collègues, les gens qui ne connaissent pas, ils ont vraiment des témoignages très très forts et qui font vraiment faire un pas de côté aux enseignants qui le regardent. Mais moi, ce qui m'a, et dans tout le travail que j'ai pu faire avec vous, c'est vraiment la question du travail de pair. On l'a vécu ici dans les ateliers pour l'école et qui sont tenus, dont on voit Vaughan à un moment donné prendre la parole, c'est à ce moment-là, à Lyon, qui a abouti, je me permets, je fais pas de la pub pour ATD parce que mais qui a abouti à ce document qui est intéressant, qui est la suite du petit document qui est affiché là-bas.
Qui sera présenté par Régis Félix.
Ah bon, pardon. Je fais des bêtises. Moi, en tant que formatrice, passionnée par ce travail entre pairs, qui est comment chacun va faire reconnaître. C'est un truc auquel je me suis beaucoup confrontée depuis 15 ans, je bosse là-dessus avec pas mal de groupes d'enseignants, sur cette espèce de mythe qu'on met tout le monde autour de la table et on cause et ça va forcément bien se passer. Et cette reconnaissance qu'on n'a pas tous le même accès à la parole, que nous on est des professionnels de la parole, c'est notre premier boulot, c'est de prendre la parole devant des groupes, et qu'il y a un certain nombre de parents, et pas seulement les parents les plus en difficulté, l'intérêt c'est qu'ils nous questionnent sur l'ensemble des parents. Pour autant, prendre la parole, c'est pas simple. Moi, j'ai essayé en formation, du coup, de comment réinvestir ce travail de groupe de pairs, même dans peu de temps. Voilà. Alors, la deuxième chose que je voulais dire par rapport au film, là, pour le vivre encore au quotidien, c'est la difficulté de monter des groupes de pilotage interprofessionnels. Il se trouve que le projet, là, en associant leurs parents, il a été... essaimé sur 22 villes de France. Moi, je fais partie d'un projet qui associe deux villes de l'Orne, Flers et Alençon, où on a très très peu pu investir l'école parce que c'est compliqué. Il y a des risques aussi à prendre que j'ai peut-être pas pris en tant que de la place institutionnelle que j'ai. Et c'est compliqué effectivement autour de ces enjeux-là, autour de la parole. De la parole du plus pauvre, autour du croisement des savoirs, enfin autour de tout ce que vous défendez, c'est pas toujours simple de le défendre auprès de nos institutions et de croiser des institutions qui sont parfois un peu frères ennemis, on va dire. Moi, je travaille beaucoup avec les PRE, beaucoup avec tous les partenariats possibles, mais le revendiquer institutionnellement, c'est une autre aventure. Voilà. Et donc, juste témoignage.
Bien, donc on va prendre une dernière question pour respecter les horaires et avoir le temps de découvrir aussi cet outil de formation. Donc je passe le micro, la réponse, et puis après on enchaînera sur la suite.
C'est juste une question au responsable du projet. Est-ce que des indices, est-ce qu'une mesure a été réalisée du résultat? Enfin, vous voyez. Est-ce qu'au niveau de la relation avec les enfants, est-ce qu'au niveau du bien-être, au niveau peut-être des incidents, est-ce qu'on a constaté des choses à l'issue de ces 5 années de travail?
Ben, la place de la recherche, je vous la verrai pas beaucoup aujourd'hui, mais Pierre Perrier a été interviewé dans le cadre de l'outil de formation. Donc lui, il a mené un travail sur une cohorte. Il a choisi sur les deux écoles concernées 30 enfants à partir des évaluations CM2 avec une cohorte. Donc ça veut dire des enfants en réussite, des enfants.
Bruno, ils l'ont dans le document.
Oui, ça vous allez. Alors c'est ça, dans le document c'est dedans. Donc on va vous remettre tout à l'heure un document qui donne un peu plus d'informations sur le projet.
Sur la recherche.
Vous aurez ces éléments.
De Pierre.
Sinon, bon, je répondrai un peu à votre question. En termes de réussite quantitative, de dire on va chiffrer la réussite de tous les enfants du fait que leurs parents étaient associés, on est très très limité. Parce que c'est compliqué. Maurepas, c'est 22 000 habitants. C'est deux écoles avec chacune 400 enfants à peu près, etc. Il y a eu énormément de changements en cours de projet, changements des enseignants, changements des parents. À l'école Tréguin, on a vu que sur une année, il y avait eu un turnover d'enfants très considérable, avec des enfants en situation d'hébergement chez d'autres, avec leurs parents, etc. 80 enfants sur 400 ont quitté l'école et 80 sont partis, d'autres 80 autres sont arrivés en une année scolaire.
Pendant l'année,
pendant l'année.
Début d'année. Hein.
Pendant l'année. Donc avec tout ça, alors ce qu'on a mesuré d'efficace, c'est ce que disait Benoît, des parents relais, c'est un partenariat qui s'est enclenché entre tous les partenaires et on voit quand même que l'inspectrice, au moment où on a fait la table ronde que vous avez vue, elle a organisé une animation pédagogique pour les deux écoles du quartier de 3 heures. C'était la première fois qu'une animation pédagogique se faisait avec des parents qui participaient. Et là, donc, les 10 enseignants qui ont été dans le groupe d'enseignants se retrouvaient, puisque c'était une animation pédagogique, c'était obligatoire pour tous les enseignants des deux écoles. Donc, il y a eu un partage de toutes les équipes entières sur qu'est-ce qu'avaient fait 10 d'entre eux sur 40 pour essayer de s'interroger sur leur relation aux familles. Et on voit que l'inspectrice a porté la démarche et que maintenant elle parle de que ça serve ailleurs. Ça, c'est une réussite pour nous, que la réussite éducative, au début, quand on a commencé, tous les projets de réussite éducative, c'était les projets Borloo, c'était des soutiens individuels à des enfants en difficulté scolaire. À cause de notre projet, la réussite éducative a inscrit un volet participation des parents collectifs aux écoles, qui n'existe pas souvent dans les projets de réussite éducative. Ça, c'est quand même une victoire. Et ça continue. Le David Champ, au début, il était financé sur dispositif Borloo provisoire. Aujourd'hui, la ville de Rennes a titularisé le poste de David Champ. Ça, c'est aussi une réussite. Ça veut dire que la ville a compris qu'il y avait un enjeu de quel elle contribue au rapprochement des familles avec l'école. L'inspectrice dit aussi, l'école toute seule ne peut pas y arriver. Ce partenariat est nécessaire. Ce n'est pas les enseignants qui peuvent organiser le groupe de parents qu'on a fait. Parce que, à la limite, on leur reprocherait de vouloir éduquer les parents et ça se passerait sans doute pas très bien. Donc il y a besoin de... Et ça, c'est quand même des choses qui... Et après, bon, tout passe au niveau de l'essaimage, quoi. Comment mobiliser d'autres quartiers pour se lancer dans le même genre d'aventure? On va parler tout à l'heure de 21 quartiers avec qui on a réussi à s'associer. Là aussi, c'est intéressant. Pour essaimer avec Maurepas, on a commencé l'essaimage dès le début. Les 21 quartiers, on a commencé à les mobiliser en 2007, en se disant, si on fait notre truc à Maurepas, à la fin, on va nous dire, c'est génial, mais c'est un truc d'ATD, et si ATD n'était pas là, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, c'est pas reproductible.
On va arrêter là.
Non, mais c'est pour donner quelques petits éléments.
Oui, on va. Non, mais c'est parce que.
On est tous d'accord.
Donc, Cyril a juste une question. C'est très court, hein. Très court pour à renvoyer à l'ensemble du groupe, c'est ça, jusqu'à jeudi.
Voilà, c'est une question qui ne demande pas de réponse aujourd'hui. Tout simplement pour rebondir à ce que disait Bruno sur l'essaimage et que passer sur le collège, ça a été compliqué. Or, pour la réussite, pour moi qui suis coordonnateur de l'atelier relais au collège, les fractures, c'est quand même là qu'on les voit. C'est quand même à l'issue du collège qu'on demande aux gamins de s'orienter, de construire un projet. Donc on finit jeudi par on franchit le portail ou pas. Il me semble que franchir le portail de l'école, il y a beaucoup d'initiatives intéressantes et productives. Mais ma question que je pose au groupe, c'est comment on peut réfléchir à proposer de franchir le portail du collège.